y a deux choses. Il y a la gestion du stress en opération et il y a la gestion du stress dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Le deuxième, c'est évidemment exactement la même chose dans une société civile que dans l'armée. La première gestion du stress, on est extrêmement inégaux devant le stress et devant la peur.
Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur. C'est vrai que j'ai un monsieur que vous allez entendre qui s'appelle Thierry Ducré. Et je suis ravi de t'avoir, mon cher Thierry. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien, merci beaucoup. Bien rentré à la maison après un déplacement un peu long en Afrique dans le cadre de mes activités professionnelles. Ravi de retrouver la maison, un peu moins de retrouver le froid.
Oh, après le froid vient la chaleur, comme on dit, ou après la pluie vient le beau temps.
Absolument.
Alors, j'ai toujours cette question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience ?
L'expérience est un mot, c'est un mot ambivalent parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Certains considèrent que c'est très utile, d'autres que ça n'est utile qu'à soi-même. Il n'empêche que je pense que c'est l'expérience, une somme de... En quoi est-ce que transmettre son expérience, sans doute en quoi est-ce que les échecs et les succès que l'on a connus peuvent être utiles aux autres ? Sachant que toute expérience n'est évidemment pas transposable à 100% puisque elle dépend du cadre dans lequel on évolue, de ses compétences, de ses aptitudes, de son caractère, de plein de choses, et que donc son expérience personnelle, elle n'est pas immédiatement transposable. Il n'empêche que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent intéresser les autres et qui devraient permettre de limiter les trop grosses erreurs ou les cases, voilà. Je pense que c'est un peu ça l'expérience. Et c'est pour ça que dans une partie de mes activités professionnelles, je délivre un certain nombre de conférences où j'appuie ma réflexion sur mon expérience personnelle au travers du cordon pour pouvoir apporter, j'espère, des choses au cadre des entreprises privées. Voilà.
Alors, c'est très bien. Et puis, on rentrera bien sûr dans le vif du sujet, mais j'ai aussi cette deuxième question, et ça, c'est normal pour les personnes qui ne connaissent pas. Maintenant, je peux le dire, mon général, peux-tu te présenter, s'il te plaît, à notre audience ?
Oui, donc je m'appelle Thierry Ducré, j'ai 61 ans, ouais, c'est ça, j'ai besoin de réfléchir un peu. J'ai 61 ans, j'ai effectué une carrière militaire, donc j'ai été officier dans l'armée de terre française pendant 40 ans. J'ai commencé à Saint-Cyr en 1980, j'ai terminé en 2020 à la tête des forces spéciales de l'armée de terre, une carrière tournée essentiellement vers les opérations d'une part et les relations internationales d'autre part, avec 14 années d'expatriation dans des pays divers, des États-Unis jusqu'à l'Afrique, et puis de nombreuses opérations. Voilà, donc 40 années d'expérience militaire assez variée, à la tête souvent d'unités que j'appelle des unités d'élite. Et puis, depuis 2020, donc j'ai créé une société qui fait des conférences sur le management et le management des équipes, notamment, plus que le management économique et comment on dirige des sociétés, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on conduit des équipes, comment est-ce qu'on manage des collaborateurs, et puis qui fait également du conseil en organisation. Voilà. Et depuis maintenant, depuis le mois de septembre, je travaille pour une société qui s'appelle Arise, qui travaille en Afrique et qui aide les Africains à transformer les matières premières chez eux plutôt que de les exporter à l'étranger. Voilà, donc c'est une aventure extrêmement intéressante. J'en suis le directeur sûreté. Voilà.
Ah, très bien. De toute façon, le parcours militaire est impressionnant. Et ce que tu fais pour ce beau continent africain, je trouve que c'est très important. Arrêtons d'exporter et gardons les matières premières dans un beau pays qui en a besoin, parce qu'à un moment donné, il faut penser à soi un petit peu.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est important parce qu'on ne peut éviter l'immigration sauvage et les drames qu'il peut y avoir partout à droite et à gauche avec des gens qui meurent en mer etc., que si on crée sur place les conditions d'un développement économique qui permettent aux gens de rester chez eux. Voilà. Et donc, avoir des matières premières qui partent des pays pour être exploitées en Chine ou ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, voilà. Donc, voilà, le concept est intéressant, la société est intéressante et le job est passionnant. Donc voilà. Donc, je suis ravi.
Ah bah ça me fait plaisir pour toi et plaisir pour tout ce qui se passe sur ce beau continent. J'ai envie de revenir à une question que j'avais envie de te poser. Si on avait fait un retour, alors 40 ans en arrière pour le coup et quelques mois pour le coup, quand on t'a appris que tu allais prendre une unité pour le coup, donc d'être, j'appelle ça le chef entre parenthèses d'une équipe, on te l'a présenté comment pour le coup?
En fait, on me l'a pas présenté dans la mesure où c'est tout à fait logique et évident quand on fait Saint-Cyr. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de faire Saint-Cyr en 1978 pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et à partir du moment où on fait Saint-Cyr et où on rentre dans l'infanterie de marine, ce qui était mon cas, nécessairement, quand on sort de formation, on prend le commandement d'une section de 30 à 45 hommes, puisqu'à l'époque, il y avait des hommes dans l'armée de terre. Il y en avait dans l'armée de l'air, mais dans l'armée de terre, il y en avait très peu. Donc voilà, donc je savais inévitablement en faisant Saint-Cyr que je commanderais une section de 30 à 45 hommes quand je sortirais de ma formation. Donc ça n'a pas été une surprise.
D'accord, parce que je me posais la question si c'était pour le coup pour toutes les personnes qui ont fait Saint-Cyr directement qu'ils ont un poste de commandement. Donc c'était écrit et c'était clair.
Oui, tout à fait. Oui. Quand on sort de Saint-Cyr, donc à l'époque, Saint-Cyr, c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans, puis 1 an d'école d'application. Quand on sort de l'école d'application et que donc on a fini sa formation, eh bien, on est forcément chef de section, quelle que soit l'arme, c'est-à-dire la branche, la spécialité qu'on a choisie, on est forcément chef de section. Donc on commande voilà, entre 30 et 40 hommes au quotidien, et ça dure au moins 2 ans. Moi, j'ai eu la chance d'être chef de section pendant 5 ans, mais c'est au moins 2 ans. Donc, c'est vraiment la base. On peut pas, on estime dans l'armée française qu'on ne peut pas faire une carrière militaire et occuper des fonctions de responsabilité sans être passé par cette étape-là. Tous les pays ne pensent pas comme nous. Il y a des pays qui, et en France aussi d'ailleurs, pendant certaines périodes, on a considéré qu'on pouvait avoir des officiers d'état-major qui n'avaient jamais commandé. Bon, ça c'est fini. Nous, on estime qu'on ne peut pas être officier d'état-major et avoir des responsabilités dans l'armée sans savoir ce que c'est que l'armée, sans en connaître son ADN. Et l'ADN de l'armée, c'est le commandement des hommes et des femmes, et un commandement de proximité, puisque quand on est chef de section, on voit ses subordonnés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est vraiment, et on les voit tous, tous les jours. On n'en voit pas qu'une partie. Donc on vit en permanence avec eux. Quand on part sur le terrain, on dort avec le sac de couchage à côté du leur. Enfin voilà, c'est un commandement de proximité de tous les instants qui est exigeant, mais c'est indispensable pour savoir comment fonctionne l'armée de terre.
Et quelle a été votre première mission pour le coup? Pour le coup, qui t'a marqué, parce que c'est vrai que tu commences à, voilà, à gérer 30 à 40 hommes
Ouais.
et on t'annonce que bah, tu pars.
Ouais. Alors la première mission, c'était le Liban avec les Nations Unies en 85. J'avais espéré partir un an avant. Le régiment devait partir, donc je m'attendais. Finalement, ça n'avait pas été le cas. J'étais parti très très heureux, même si le départ s'est fait dans des conditions difficiles, puisque mon beau-père venait de mourir, mon épouse était enceinte. Et à l'époque, tout n'était pas personnel extrêmement simple, en tout cas pour mon épouse. Pour moi, c'était une belle aventure, donc j'étais ravi. Et donc, oui, je suis parti pendant 6 mois et demi au sud Liban, dans une mission d'interposition entre les Israéliens frontières, les mouvements chiites de l'autre côté, donc là où nous étions implantés. Donc voilà, c'était une mission extrêmement intéressante, passionnante, très prenante et très exigeante, puisque dans ces cas-là, évidemment, on dort peu, on est tout le temps à droite et à gauche. Mais c'est voilà, c'est pour ça qu'on avait été formé, c'est ça que j'avais été fait. Et donc c'était 6 mois de ma vie extrêmement plein, et puis c'était ma première opération, donc forcément. C'est très intéressant.
Et sur le retour, tu parlais tout à l'heure de l'école Saint-Cyr. Pourquoi avoir fait le choix de l'école Saint-Cyr tout compte fait?
Eh bien, comme bon, d'abord, je suis fils d'officier, petit-fils d'officier, mais qui mes deux grands-pères ont fait la guerre sans être militaires de carrière, l'un comme médecin et l'autre en Afrique aux côtés au général de Gaulle. Mais pour autant, j'avais pas du tout l'intention d'une carrière militaire. Je voulais être agriculteur, donc je m'orientais vers une école d'ingénieur agronome. Et puis en 78, lorsque j'étais en terminale, deux événements marquants. Le premier, c'est l'opération française sur Colvézi au Zaïre, le Zaïre qui est aujourd'hui l'actuelle démocratie, où il y a eu de l'art qui a sauté sur Colvézi pour aller trouver des populations belges et françaises étaient là-bas prises un peu en otage au milieu d'une guerre civile. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle une extraction de ressortissants, une évacuation de ressortissants. Je me souviens des gens qui arrivaient à l'aéroport Charles de Gaulle à l'époque et qui remerciaient l'armée française, qui remerciaient le président de la République, qu'ils soient français ou belges d'ailleurs. J'avais été assez impressionné. Je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je n'avais pas vu comme ça. Malgré le fait que mon père était militaire, je n'avais pas vu qu'effectivement l'armée pouvait avoir finalement des produits positifs. Donc il y avait ça. Et puis, un mois ou 2 mois après, le colonel qui commandait les forces françaises au Liban, au sud Liban, a été grièvement blessé dans une attaque contre son véhicule. Il se trouve que c'était un ami de mon père qui était soigné pas très loin de chez moi, et donc je lui apportais tous les midis son café parce que le café à l'hôpital était absolument immonde, et donc tous les midis en rentrant au lycée, je lui apportais son café, et donc j'ai parlé avec lui tous les jours pendant plusieurs mois. Et voilà, cet homme-là m'a impressionné. Ce qu'il me disait, est-ce que je comprenais à travers ces témoignages, oui, ça m'a marqué. Et je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire. Et en 2020, quand j'ai quitté l'armée, il était là. C'était extrêmement de voir 40 ans après cet homme-là, forcément diminué physiquement par les blessures qu'il avait eues par l'âge, etc., m'accompagner dans mes derniers instants de ma carrière militaire. Donc c'était un grand moment. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'armée de terre alors que je m'orientais pas du tout au départ vers cette carrière-là. Et je ne regrette rien.
Ben non, et heureusement. Et puis non, c'est une belle fin, hein, d'avoir eu cette personne que tu as donné le café en train de se remettre, bien sûr, sur son lit d'hôpital. C'est quelque chose de fort pour le coup.
Oui, un moment très fort. C'était très, très fort.
Et alors, c'est dur de résumer, bien sûr, 40 ans de carrière, mais est-ce qu'il y a eu des moments où il y a des choses qui t'ont vraiment marqué pour le coup? Que ce soit une opération militaire spécifique dans un pays, ou soit le commandement en fin de carrière des forces spéciales. Voilà, est-ce qu'il y avait deux, trois éléments qui t'ont vraiment marqué en tant qu'homme pour le coup?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je disais, je suis armé d'aventure, j'ai été assez bien servi de ce côté-là, je dois reconnaître. Mais ce que j'en retire après 40 ans, et j'ai exactement ce que j'ai dit quand j'ai quitté l'armée d'ailleurs, ce que j'en retire après 40 ans, finalement, ce ne sont pas tellement mes aventures, mais c'est les gens que j'ai rencontrés, parce que c'est une vie, c'est un métier qui est totalement centré sur les collaborateurs que l'on a. Autrement dit, c'est subordonné, comme on dit chez nous. C'est vraiment un métier centré autour des collaborateurs, plus que sur les résultats. Voilà, c'est pourquoi? Parce que quand on commande une unité, il faut être capable de les emmener au combat et donc d'être en mesure de leur demander de mourir pour la mission qu'on leur fixe, ce qui est quand même assez extrême. C'est extrêmement difficile. Et donc, il faut. Je dis pas que j'ai réussi. Hein, je suis pas nécessairement un modèle, mais en tout cas, il faut porter une attention extrême à ces subordonnés pour que bah d'abord ils puissent s'épanouir et faire leur métier correctement, et puis qu'on puisse un jour éventuellement, si nécessaire, leur demander d'aller risquer leur vie au combat. Donc voilà. Donc ça, alors pour répondre plus concrètement à ta question, qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup de choses? D'abord, comme je le disais, les gens que j'ai rencontrés. Et je vois la tête de presque tous les gens que j'ai eus sous mes ordres. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, y compris les gens que j'avais quand j'étais chef de section, quand je suis sorti de Saint-Cyr. Et certains qui, avec qui on échange. C'est pour ça que je trouve, moi, personnellement, que les réseaux sociaux sont des outils exceptionnels parce que j'ai réussi à reprendre contact avec des gens que j'ai eus sous mes ordres en 1983, c'est-à-dire il y a bientôt 40 ans. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et donc je vois, oui, je vois la tête de tous ces gens-là comme si c'était hier. Donc ça, c'est le plus important. Après, il y a des choses que j'ai en mémoire, évidemment, des choses sur lesquelles j'ai échoué, même en termes de convenant d'ailleurs, des erreurs que j'ai faites. Il y a ça, il y a des moments forts en opération, et puis il y a des moments très désagréables dans mon expérience, notamment avec un de mes chefs. Voilà, une relation de travail extrêmement désagréable dont je me souviens de façon assez vive, et qui m'a fait revenir en mémoire ce que m'avait dit mon père quand j'avais dit que je voulais faire Saint-Cyr. Il m'avait dit, mais tu sais, quand tu es dans l'armée, quand tu tombes sur un con, tu ne peux pas changer. Quand tu es dans le civil, quand tu tombes sur un con, tu peux changer de boîte. Et en fait, j'ai vécu pendant 30 ans sans jamais rencontrer de con, et ça m'est arrivé un jour. Donc voilà. Donc ça, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. Voilà.
Mais ce con, il est pas recadré à un moment donné quand il. Sur, mais alors, bien sûr, tu parles d'une mille entreprises, on peut sortir, on peut s'améliorer en discutant. Bon, un con reste malheureusement un con, mais au niveau de l'armée, comment ça se passe? C'est qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que voilà, ça va jouer pour le coup, sur tes subordonnés, parce qu'il doit y avoir aussi une relation qui est peut-être en relation par rapport à ça, comment tu arrives à. Tu peux pas lui dire parce qu'il est au-dessus de toi? Tu peux pas avoir cette confrontation avec lui pour le coup?
Si, évidemment. Maintenant. C'est difficile de sortir de ça dans la situation dans laquelle j'étais moi à ce moment-là. En fait, c'était un face-à-face et il y avait quasiment personne au-dessus. En tout cas, on était à l'étranger, et donc bah, il faisait un peu ce qu'il voulait. Donc oui, moi j'avais quelques copains qui m'ont aidé effectivement parce que le harcèlement était tellement évident que au bout d'un moment, ça se voit. Mais voilà, après on survit, on fait autre chose, on essaie de trouver son équilibre ailleurs. Bon, moi, j'ai fait énormément de sport à cette époque-là. Je suis sportif, donc je fais beaucoup de sport en général. Mais je me suis investi beaucoup dans la plongée, parce que l'avantage de la plongée, c'est que quand tu es sous l'eau, tu ne penses pas à autre chose.
Ah oui, n'oublie pas.
Donc voilà, on cherche son équilibre d'une autre façon. C'est important de pouvoir trouver son équilibre, mais je pense que tout le monde a vécu dans son milieu professionnel ou personnel des moments difficiles.
C'est sympa l'équilibre en plongée, de trouver son point d'équilibre. Et surtout ce moment
Oui,
où
oui.
on va être bien et puis on va pas trop, pas trop respirer parce qu'on a, de toute façon, on a qu'une seule bouteille et puis après on va chercher la bouteille d'un étendeur d'un autre. Et c'est intéressant. Et ça peut être une autre question complémentaire pour le coup. Donc maintenant, tu as ton activité de conférencier pour le coup. Et quelles sont les demandes des entreprises? Parce que moi, je remarque, je trouve que c'est vraiment très fort d'avoir une personne qui a fait une belle carrière militaire et qui est capable de transposer, on va dire, au quotidien des entrepreneurs, des dirigeants, des collaborateurs. Mais quelle est vraiment, voilà, par rapport à l'expérience peut-être d'onboarding, comment tu fais que les personnes qui arrivent dans une entreprise, et il faut bien les onboarder pour le coup, c'est un anglicisme, mais qui est assez intéressant pour le coup, et comment tout compte fait, on arrive à accompagner les équipes qui, elles, comme tu le disais tout simplement, si à un moment donné, elles veulent partir, elles partent. Mais ce n'est pas toujours le cas pour le coup. Il y en a qui n'osent pas partir. Comment on pilote avec ton
Alors,
retour de militaire?
moi, il y a plusieurs choses qu'on m'a demandé de faire, plusieurs sujets ou plusieurs thématiques qu'on m'a demandé d'aborder. La plus classique, la plus commune, celle qu'on me demande le plus souvent, c'est de parler de team building, d'esprit collectif, de. Ça c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Des équipes, donc ça c'est important. Une société de luxe qui me fait venir lors d'un séminaire de leur COMEX, de leur comité exécutif. Donc ils étaient 10, les 10 membres du comité exécutif Et le but, c'était effectivement de faire de faire de la cohésion de l'équipe, parce que c'était en sortant de la Covid, donc les gens avaient été un peu jetés, se parlant, des embauchés entre-temps, etc. Et donc, l'idée, c'était de faire de la cohésion de cette équipe-là. Alors ça, ce sont des sujets qu'on me demande assez souvent de traiter. C'est effectivement la cohésion des équipes, l'esprit collectif, l'esprit maison. Voilà. Donc ça c'est le premier, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est les thématiques tournant autour du leadership. Comment se comporter vis-à-vis de ses collaborateurs. Et quel type de relation de travail il faut essayer d'avoir à la lumière de ce que j'ai fait moi évidemment dans le commandement d'unité d'élite, c'est qu'est-ce qui est transposable et comment on peut améliorer les relations de travail. Ça s'adresse souvent plus qu'aux autres. Alors j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps. C'était la première fois d'ailleurs où il y avait cadre et collaborateur, en fait, il y avait les deux. Ce qui m'a demandé un certain effort d'ailleurs, parce que c'est moins appliqué de discuter aux deux en même temps. Mais globalement, c'est ça. Comment améliorer les relations? Toujours en trois volets, c'est comment on gère ses collaborateurs, comment on gère ses chefs et comment on se gère soi-même. Voilà, donc ça, c'est la deuxième thématique. Et puis après, il y a des thématiques qui sont propres au milieu militaire. C'est comment gérer une crise, comment se préparer à l'imprévisible. Ce sont des choses comme ça qui ont plus trait à la gestion de crise qu'à la gestion des personnes. Donc voilà, globalement, les trois thématiques principales, team building, donc esprit d'équipe, team building, esprit d'équipe, management des équipes. Et puis la gestion de crise, s'adapter, gérer des crises, etc. Voilà, globalement, les trois thématiques principales qu'on me demande d'aborder.
Et est-ce qu'il y en a une pour le coup où tu te sens le plus à l'aise d'en parler par rapport à tous tes retours d'expérience?
Ben, ces trois thématiques-là, c'est des thématiques sur lesquelles je suis assez à l'aise. Sur lesquels je suis assez à l'aise. J'en aborde. Il pourrait y en avoir plein d'autres. Il pourrait y en avoir plein d'autres. J'ai fait une conférence sur l'innovation, par exemple, puisque dans les forces spéciales, il y a une capacité d'innovation qui est assez phénoménale. Et comment est-ce qu'on arrive à innover aussi comment est-ce que les forces spéciales arrivent à un tel niveau d'innovation? Donc ça, c'est aussi des sujets que je peux traiter. Mais c'est vrai que les trois premières thématiques sont des thématiques que je préfère. Et parmi ces trois-là, c'est quoi manager? C'est quoi être un manager? C'est comment est-ce que on conduit une équipe? Je pense que c'est sans doute celle dans laquelle la thématique dans laquelle je suis le plus à l'aise, même si les autres me pose pas de problème, mais c'est vrai que ça c'est plutôt bien. Et puis les thématiques tournant autour de la gestion de crise, de l'adaptabilité, bon, ça c'est pareil compte tenu de mon parcours. C'est des choses où. Alors, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on pense et ce qu'on essaie de transmettre, c'est une chose, mais ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est d'avoir une expérience qui permet d'illustrer ça et donc d'avoir des choses qui vont être assez percutantes et qui vont pouvoir marquer les gens qui écoutent pour dire, ah ouais, tiens, ça c'est transposable, ça c'est intéressant. Voilà, j'ai une bonne copine qui s'appelle Virginie Guyot qui est une ancienne patronne de la patrouille de France, ancien leader de la patrouille de France qui fait des conférences. C'est pareil, quand elle parle, c'est forcément marquant d'avoir une femme pilote de chasse, patronne de la patrouille de France, qui explique la préparation des démonstrations, etc. Ça parle parce que c'est des expériences que les gens qui nous écoutent n'ont pas. Donc, sur les thématiques que j'aborde, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de trouver des exemples qui soient des exemples un peu uniques, mais qui permettent quand même de raccrocher à une expérience professionnelle que connaissent les gens à qui on s'adresse. Donc voilà.
Je
Globalement. Oui.
me projetais avec dans la patrouille de France si on avait eu cette troisième étoile, je pense qu'il serait passé, dans les cieux pour, avec ce très beau drapeau de, bah, pas de l'équipe de France, mais le drapeau de la France pour le coup. Ça,
Oui.
c'est sympathique. Et comment t'arrives tout compte fait à sélectionner des, voilà, des éléments que tu as envie de partager? Est-ce que c'est en fonction de l'entreprise que tu as? Parce que c'est vrai que tu as énormément d'expérience. Alors, les expériences, bien sûr, que tu n'as pas le droit de raconter parce que je suppose secret militaire, on peut pas l'évoquer. Comment tu arrives à t'adapter en fonction, voilà, de ce COMEX ou de ces entreprises, pour le coup?
Alors, d'abord, en général, comment ça se passe? Il y a des intermédiaires. Sont souvent des intermédiaires qui prennent contact avec moi, des sociétés dont le rôle est d'organiser des séminaires ou d'organiser des conférences, auprès de qui je suis référencé, qui m'appellent en disant, tiens Thierry, on a un truc, voilà, il y a telle société qui aimerait bien te faire intervenir pour un séminaire, pour une soirée, pour machin. Et donc, ils aimeraient bien parler de esprit d'équipe, de je ne sais pas quoi. Bon, il y a un thème qui est abordé. Donc on prépare ça. Donc de son côté, le partenaire, lui, va regarder le client, va commencer à négocier les prix, machin, etc. Et puis ensuite, ce qui est très important, et moi c'est ce que je fais systématiquement, c'est-à-dire que je prends un contact direct avec le client, avec l'intermédiaire présent s'il faut, ça n'a pas d'importance, mais avec le client, pour cerner de près ce qu'il veut exactement. C'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il cherche dans ce séminaire? D'abord, qui assiste à ce séminaire. Est-ce que c'est le COMEX avec 10 personnes qui sont tous des qui font tous partie des dirigeants de l'entreprise et qui savent exactement où ça va? Est-ce que ce sont de jeunes managers qui ont assez peu d'expérience dans la conduite des équipes? Est-ce que c'est voilà qui assiste à cette conférence? Combien ils sont? Parce qu'évidemment, ça peut quand on a 10 personnes, c'est beaucoup plus intime que quand on en a 300. Donc combien ils sont? Et puis quels sont les messages? Que veut faire passer la société, la compagnie qui fait appel à moi. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je prépare, parce qu'en fait je fais jamais la même conférence. Donc je
Oui, c'est pour ça
prépare
que
ma
je te posais cette
conférence.
question. Ouais.
Ouais, je fais jamais la même. Et même pour la même société avec le même sujet, je fais jamais la même. Je modifie toujours des trucs. Et donc une fois que j'ai bâti ma présentation, je retourne vers eux, je leur envoie la présentation, je leur dis bah voilà, voilà ce que j'ai prévu de faire, voilà ce que j'ai prévu de dire. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Est-ce que bon voilà. Et donc une fois que le produit est validé, et ben à ce moment-là, je suis
C'est
prêt
parti.
et c'est parti. Voilà.
Et mais une question, mais vraiment, je transpose un petit peu le monde des films. Bon, c'est souvent les Américains, et ils ont une autre version que nous, que l'armée française, pour le coup, étant le leader. Quand tu arrives pour le coup sur une scène, est-ce que tu te rappelles quand tu étais militaire, chef d'état-major, ou sur le coup, tu vas t'exprimer devant ce pater de femmes et d'hommes, pour le coup, tu as préparé avec eux, quelle est ta posture? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent un petit peu dans le passé ou pas? En étant pour le coup général.
Non, parce que alors non, non et oui. Non, parce que d'abord je prépare ces interventions, je les prépare beaucoup. Je travaille. Et avant l'intervention elle-même, puisque souvent il y a des déplacements, soit en avion, soit en train. Je revois ma présentation, je travaille dessus, donc je l'ai bien en tête. Et donc, en général, quand je déroule la présentation, je sais ce que je vais dire. Pour autant, ce n'est pas juste en arrivant dans la salle, mais c'est au cours des échanges. Alors d'abord, ce qui est intéressant dans ces conférences, ce n'est pas tellement la conférence. Alors la conférence, bien sûr, c'est intéressant. Je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant ce que je raconte, mais le plus intéressant, c'est la partie questions-réponses. Et moi, je dis toujours qu'il faut consacrer au moins autant de temps à la partie questions-réponses qu'à la partie exposée. Et c'est dans la partie questions-réponses où là, effectivement, souvent, pour appuyer un propos, je vais aller rechercher des expériences personnelles. Et là, ça revient assez vite, ça revient tout seul. C'est-à-dire que quand j'ai des questions sur tel ou tel point, je retrouve souvent des choses que j'ai vécues qui vont me permettre d'appuyer mon propos. Voilà, c'est plus dans cette partie-là, parce que quand je déroule la conférence, elle est tellement préparée, je l'ai tellement bossée que normalement, ça roule tout seul. Et heureusement, parce que si je partais à droite ou à gauche, je ne resterais pas dans le timing. Donc, il y a quand même un timing, faut rester sur le truc. Mais voilà. Et puis après, oui, dans la partie question-réponse, là, ça peut partir. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite en visio en plus, alors que la visio, c'est quand même pas extraordinaire, je trouve, pour faire des conférences. Mais j'avais fait une conférence pour de Richebourg. Et ça devait durer 1 heure et demie, et je crois que ça durait 2 heures et demie. En tout cas, plus de 2 heures. Ouais, c'est ça. Ça devait durer 1 heure et demie, ça durait plus de 2 heures, parce que les questions-réponses ont duré, duré, duré. C'était extrêmement intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de questions. C'était beaucoup de jeunes managers, et c'était très intéressant. Et donc, c'est dans cette partie-là où effectivement, on fait appel à son passé, ou au contraire, on fait appel à leur passé, à leur vécu. Et c'est toujours cette partie-là dans laquelle moi je m'éclate le plus parce qu'il y a de vrais échanges, c'est extrêmement riche pour eux comme pour moi, c'est
Oui,
extrêmement
totalement. Oui.
riche.
Ben ça, c'est intéressant, c'est ce transfert tout compte fait de messages. Quand tu étais chef d'état-major, comment ça se passait quand, avec la relation, alors, tu arrivais en fin de carrière, mais la relation avec la pression et le stress, ça m'intéresse particulièrement, je pense aussi, les personnes qui nous écoutent. Comment tu détectais déjà que toi, il y avait vraiment de la bonne pression et que tes équipes, à un moment donné, tu voyais peut-être dans un regard, voilà, si tu avais un exemple de souvenir. Parce que bon, c'est quand même des choses à ne pas oublier. Et je pense que là-dessus, en ce moment, on parle beaucoup de la pression, de la gestion du stress. Et donc, j'aimerais avoir ton retour là-dessus.
Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la gestion du stress en opération et il y a la gestion du stress dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Et le deuxième, c'est évidemment exactement la même chose dans une société civile que dans l'armée. La première gestion du stress, on est extrêmement inégaux devant le stress et devant la peur. Extrêmement inégaux. Il se trouve que, personnellement, quand il y a effectivement des moments très denses militairement et que ça commence à merder un peu, comme on dit chez nous, moi j'ai naturellement un réflexe qui fait que je suis extrêmement calme. C'est pas du courage, j'y suis pour rien. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai été. C'est comme ça que je suis né, c'est comme ça que voilà, j'y suis absolument pour rien. Mais il se trouve que quand ça commence à être dangereux, je suis extrêmement calme. C'est vrai dans mon métier militaire, c'est vrai dans le sport aussi, dans des sports dits à risque, comme le parachutisme ou la plongée ou des choses comme ça. Je suis extrêmement calme quand ça devient dangereux. Et donc, je suis pas soumis au stress. En tout cas, j'en ai pas le sentiment et ça m'est arrivé évidemment plusieurs fois. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui fait le côté un peu particulier du métier militaire, finalement, cet aspect-là, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de leçons à te donner sur cet aspect-là, parce que en fait, j'ai pas vraiment été confronté.
Ou en termes
Néanmoins,
d'observation, en termes d'observation des équipes.
Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, néanmoins, je pense que, on peut être comme ça quand on a travaillé suffisamment ses compétences, quand on a développé un certain nombre de choses, etc. Donc, quand on sait que on a fait tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien, et eh ben tout se passe bien. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, gérer le stress chez ses subordonnés, etc. Moins on est stressé soi-même, moins on génère de stress chez les autres. Le stress, ça se transmet extrêmement facilement. Donc, quand on est calme, qu'on est clair et qu'on est, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, il y a le stress dans la préparation. Et là, oui, ça, bien sûr qu'il y a du stress. Il y en a comme dans les sociétés civiles, comme je le disais tout à l'heure. Sauf que les conséquences sont pas forcément les mêmes, mais peu importe. Le principe est le même, ce stress ou la peur ou la tension, appelons-le comme on veut, est aussi bien pour soi que pour les autres, et la capacité à éviter de générer du stress chez ses subordonnés, ce qui n'est pas très simple. Moi, je sais que je suis assez exigeant, et donc je fais extrêmement attention parce que je peux effectivement générer du stress chez mes collaborateurs. Je le sais, parce que je me connais, et donc j'y fais très attention. J'y fais d'autant plus attention parce que je sais que c'est une de mes faiblesses, un de mes défauts. Donc j'y fais attention. Donc voilà ce que je peux dire. C'est important de se connaître pour savoir ce à quoi il faut qu'on fasse attention. On ne changera pas ses défauts. On ne peut pas changer comme ça. Alors on peut changer quand on a 5 ans ou 6 ans et encore. Quand on a plus de 40, ça commence à être compliqué. Donc on peut atténuer des choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien se connaître, de bien connaître ses défauts pour pouvoir pallier ses défauts, pour pouvoir les gommer un petit peu et en tout cas être alerté sur ce qu'on est amené à produire comme effet négatif.
C'est très clair, cher Thierry. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit en termes de management, pour le coup, hors du management militaire, mais de relation avec ses subordonnés. Quand tu es sur le front, je parlais un petit peu tout à l'heure des Américains, quel est toi était ton vécu avec les troupes américaines versus toi, les troupes françaises? Comment on pouvait cartographier, nous, les Français, et eux, les Américains?
Alors, c'est une question qui n'est pas très simple parce que moi, j'ai travaillé avec les Américains plusieurs fois, mais j'ai surtout travaillé pendant 2 ans avec eux, mais en état-major, c'est-à-dire qu'on traitait effectivement de la guerre en Irak, en Syrie, des opérations en Afghanistan ou dans d'autres pays de cette région-là, mais j'étais pas sur le terrain avec eux. Donc, c'était en état-major et donc c'est assez différent. Donc, c'est difficile de comparer. Ce que je crois, c'est que on a, nous, dans l'armée française, et je parle en général, je parle de l'armée française en général et de l'armée américaine en général, on a en France des officiers et des sous-officiers, donc des cadres, qui sont extrêmement bien formés, de très très grande qualité. Je parle des cadres en début de carrière, donc les lieutenants quand ils sortent d'école de formation et qui commandent, comme on disait tout à l'heure, 30 à 40 personnes, ou les sergents qui commandent une dizaine de personnes. On a des gens qui sont extrêmement bien formés pour le commandement de proximité, dont je parlais tout à l'heure. Un chef de groupe, un sergent qui va sortir d'école, il est formé en un an et demi, il va commander 10 personnes, il les voit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, ce commandement-là, honnêtement, l'armée française, on est une des armées au monde qui forme le mieux ses cadres de contact. Sergent, lieutenant, donc cadre de maîtrise, un sergent, c'est un cadre de maîtrise, pour reprendre des comparatifs avec le monde civil. Et puis un lieutenant, c'est un cadre. Ça, on est quand même extrêmement bien formé. Et mieux que la plupart des pays au monde. Mieux en tout cas que toutes les armées que j'ai fréquentées. Les Américains, les Britanniques, les Allemands, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait très bien faire. On ne sait pas forcément aussi bien que d'autres former nos officiers très supérieurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, les cadres de contact, je pense qu'on a, à mon avis, on a parmi les meilleurs cadres de contact au monde. J'ai un peu perdu la question.
Non, 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 c'était pour voir par rapport aux strates en termes de
Ah oui, par
communication
rapport
avec
aux
les Américains.
Américains, etc. Ouais. Donc je pense que ça, on sait vraiment bien le faire. Après, j'ai jamais été en opération avec les Américains à leur côté, donc c'est difficile pour moi d'en parler. Mais fondamentalement, je pense que la différence, elle est là, c'est le contact avec nos hommes. Après, quand on voit un petit peu, je suis en train de lire le livre du général Stanley McChrystal, commandant des forces spéciales américaines, qui a une histoire assez exceptionnelle. Il y a des choses qui dit dans son livre qui sont quand même très similaires à ce que nous on dit, mais ce sont les forces spéciales. Donc les forces spéciales, je pense que les forces spéciales américaines que j'ai rencontrées, je suis allé les voir, ils ont cette même logique de commandement de proximité, d'attachement physique à nos collaborateurs, parce que ils combattent en petites équipes, ils combattent dans des environnements extrêmement abrasifs, et donc je pense qu'ils sont un peu comme nous. Je ne suis pas persuadé que l'officier américain classique ait les mêmes qualités, je parle du jeune officier, hein, encore une fois, que nos jeunes lieutenants en régiment. Bon, après, les officiers supérieurs, c'est autre chose. Là, chaque pays a sa façon de former ses gens, et ils n'ont rien à nous envier, à mon avis. Mais sur les cadres de contact, je pense que oui, on a des cadres de contact qui sont assez exceptionnels. Quand je suis passé colonel, je suis passé colonel très jeune. Et quand je suis passé colonel, mon père m'a dit, écoute, compte tenu de cette promotion-là, potentiellement, tu pourras arriver à des hauts niveaux dans l'armée. Rappelle-toi quelque chose. Plus tu montes dans la hiérarchie, et plus il faut faire un effort pour aller voir comment ça se passe en bas. Et lui était, il a fait une carrière militaire, et puis après il a fait une carrière civile. Il a terminé comme un des directeurs d'aéroports de Paris. Et il allait déjeuner à la cantine d'aéroports de Paris, et il essayait, quand il pouvait, justement, de discuter avec les gens, avec les ouvriers, avec voilà. Et il m'a dit, plus tu montes dans la hiérarchie, et plus il faut aller voir en bas comment ça se passe, parce que inévitablement il y a une barrière qui s'installe, et ben, c'est ce qu'on reproche souvent au président de la République, quel qu'il soit, l'actuel ou les précédents. C'est le problème de la tour d'ivoire. C'est-à-dire que inévitablement, on finit par s'éloigner un petit peu des gens. C'est très difficile. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie, plus il faut aller regarder en bas, parce qu'il faut pouvoir avoir un contact direct et pas se reposer sur les gens qui disent oui, ça va, non, ça va pas. Parce que tout le monde dit que ça va. Personne ne va dire au chef, ah non, chef, ça va pas du tout, là, ça va pas du tout. Les décisions que vous avez prises, elles sont catastrophiques. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Il y en a peu qui sont capables de dire. Alors, il faut aussi identifier quelqu'un dans son entourage qui va être capable de nous
Capable.
dire, là, chef, vous avez fait une connerie, ça c'est important. Mais il faut aller voir en bas comment ça se passe, comment on s'est vécu, etc. Et quand on note à ce moment-là des problèmes, arriver effectivement, comme tu le disais, à identifier les raisons qui font que ben, les gens ne sont pas bien dans leur peau, que les gens râlent, que voilà.
Non, non, mais ça reste, de toute façon, tu l'as très bien dit, tout se passe, alors que ce soit par le bas, par le milieu, par le haut, à un moment donné, il faut qu'il y ait une bonne osmose, une bonne communication. C'est ce qu'on demande aux entreprises de plus en plus, pour le coup, d'avoir une vraie communication. Et quand il y a des choses qui arrivent, et maintenant, le problème, c'est qu'on voit ça un petit peu trop tard, mais en trop tardive. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de maladies situationnelles, où la personne n'a pas envie d'aller se confronter, comme tu le disais, avec sa direction, même si des fois, c'est censé, c'est bien posé. Et il faut, à un moment donné, il faut aller dans les deux sens. Ça, je pense que un des messages forts, c'est ça pour les entreprises qui écoutent, c'est aller écouter. Vous le savez, mais est-ce que vous allez vraiment écouter? Ça, c'est
Ouais,
pour
c'est
ça que
ça. Ouais,
c'est un sujet.
et ça, c'est vraiment pas facile. Et pour avoir discuté avec beaucoup de cadres d'entreprise quand je faisais des conférences, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. C'est le dialogue avec les collaborateurs. C'est le fait que même quand on est en open space, je discutais avec une responsable d'un magasin de luxe, de grand luxe, une boîte française de luxe qui elle avait un magasin à l'étranger, et qui me disait, on est en open space, donc tout le monde voit tout le monde, mais en fait, c'est pas très simple de communiquer, finalement, de façon assez, parce que pour communiquer vraiment, de temps en temps, il faut quand même pouvoir s'isoler. Parce que quand on a des choses sensibles, délicates, douloureuses à dire, ben, c'est mieux d'être tranquille et de ne pas être vu par tout le monde. Donc voilà, oui, c'est vrai que la communication, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. Parce que communiquer, franchement, alors il y a deux types de communication. Il y a la communication un peu formelle qu'on met en place avec la direction de la communication, qui, bon, ça, c'est une chose. Mais communiquer avec ses collaborateurs, ça en est une autre. Et communiquer avec ses collaborateurs, ça veut dire qu'on va se lâcher un peu, ça veut dire qu'on va forcément casser la carapace et ouvrir l'armure. Et quand on ouvre l'armure, eh bien, si on est fragile et si on n'est pas très solide intérieurement, ben, on se fragilise. Donc c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à s'ouvrir sans se fragiliser pour les gens qui se sentent fragiles. Et donc ça, c'est pas très simple. Donc communiquer de façon un peu formelle. Ça, toutes les directions de la communication le savent, il y a des communicants partout, c'est leur métier, ils savent faire. Communiquer avec ses collaborateurs quand on est un responsable, c'est un peu plus compliqué. Parce que après, il y a des gens qui font ça naturellement, mais c'est un peu plus compliqué.
Oui, pour en avoir vécu, en avoir vu certains managers qui craquent devant leurs équipes parce qu'ils ont trop de pression au-dessus. Des fois, après, tu as le retour des équipes, mais pourquoi il a craqué? Il faut juste à un moment donné, ça reste un humain, tu vois. Donc, il y a des situations
Ouais.
qui ne s'est pas exposé frontalement à toi. Et OK, bah là, il a craqué, il aurait pu être beaucoup plus virulent, mais il ne l'a pas fait pour vous protéger parce qu'il y a toujours ces effets de protection. Et c'est vrai que c'est. La communication, on le dit, mais il faut être sur cette ligne-là. Mais après, c'est ça, c'est oser se faire découvrir, de se découvrir et de passer
Oui,
par
c'est
ce
ça,
chemin-là.
ouais, absolument. Et puis, alors après, les gens qui craquent comme ça, moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais des conférences sur le management, c'est se manager soi-même. Se manager soi-même, le plus important, c'est, je parlais tout à l'heure de la plongée quand j'avais un chef qui était un peu harceleur, il faut trouver son équilibre, c'est extrêmement important. Donc, ça peut être la plongée sous-marine, ça peut être de la musique, ça peut être du sport, ça peut être monter sur une Harley, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Mais c'est indispensable de trouver son équilibre. Moi, j'ai un patron en ce moment qui est un type assez incroyable, qui a 45 ans, qui a une société qui marche avec une croissance absolument phénoménale, puisque quand il m'a embauché il y a 3 mois et demi, on était déployé dans 8 pays, aujourd'hui c'est 16, donc ça va tout allure. Tout allure, il dort 4 heures par nuit, c'est un type qui est assez exceptionnel. Tous les jours, il court 10 km. Tous les jours, il court 10 km. Donc ça, c'est son équilibre. Donc ça lui permet de. Voilà, et c'est ça qui lui permet de garder son énergie. Voilà. Donc, c'est indispensable quand on est patron de conserver, quand on est patron, quand on est chef tout court, ou quand on est, même quand on est collaborateur. C'est important de trouver son équilibre parce que la pression, la recherche de résultats, les pressions familiales, machin, font que c'est facile de disjoncter. Et donc, pour éviter de disjoncter, faut trouver, et chacun a ses moyens, il faut trouver un moyen qui permet de se stabiliser.
Oui, se stabiliser et trouver vraiment ce qu'on a envie de faire. Ça peut durer, ça peut être des exercices aussi de relaxation, de détente, de lire ou autre sujet. Mais voilà, pouvoir s'évader sur ce petit sas pour permettre de décompresser, que ce soit sous
Tout
le
à fait.
format de sport intense ou tout simplement de discuter, il y a de tout. Hein. Pas trop crier parce que ça fait trembler les murs, mais non, c'est vrai, c'est des sujets super importants que des fois on minimise. Surtout en ce moment avec la gestion de la Covid depuis 2 ans, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets. Tu vois, les startups dans la tech, ils licencient à pleine volée parce qu'il y a beaucoup moins de fonds disponibles sur le marché. C'est vrai que c'est des sujets, mais ça reste de la communication, ça reste de la gestion des équipes et comme tu disais, de la communication de soi-même, voir un petit peu là où on a nos failles et puis à un moment s'améliorer et oser se dévoiler quand on a envie de se dévoiler pour avoir une bonne façon de communiquer. Et
Ouais, tout à fait.
on reste humain toutes et tous. Donc il faut savoir décompresser. Surtout en cette fin d'année pour bien commencer l'année prochaine. Et quand on a voilà, cette sensibilité, il faut écouter son corps parce que ça va vite. Hein, partir de l'autre côté, malheureusement, en ce moment, ça va de plus en plus vite. Donc il faut faire très attention.
C'est vrai.
Est-ce que j'ai encore deux petites questions? Il y a une question que j'ai vraiment envie de te poser. Alors,
Ouais.
j'ai déjà plus ou moins abordé, mais est-ce qu'il y a. Alors, quand tu es arrivé le jour, tu arrives à la fin de ta carrière militaire pour le coup. Quelle a été ta gestion des émotions de se dire, tiens, 40 ans, et hormis la personne qui t'a accompagné, qui t'a donné son café, qui était venue te voir, est-ce qu'il y a une forte, voilà, une histoire à raconter, un partage d'expérience sur comment tu as vécu, entre parenthèses, cette dernière journée, même s'il n'est pas fini en soi, mais quelle a été voilà, toute cette belle histoire, une belle histoire?
D'abord, je suis parti en plein Covid. Donc la façon dont je l'ai vécu avec énormément de frustration parce que je n'ai pas pu inviter les gens que j'avais voulu inviter. Parce que c'était limité. Alors certains avaient même interdit de faire des cérémonies, etc. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même faire une cérémonie et d'inviter des gens. Mais c'était évidemment extrêmement limité, donc toute ma famille était là, ou presque. Et puis j'avais invité des gens, mais j'ai pas pu inviter tous ceux que j'avais prévu d'inviter. Il y a des gens que j'avais croisés tout au long de ma carrière qui devaient venir et à qui j'ai dû envoyer un mot en disant, écoute, je suis désolé, mais voilà, les consignes font que, voilà. Donc j'ai dû limiter de façon assez drastique et ça m'a beaucoup coûté. Donc ouais, ce côté frustration due au Covid. Ça, c'était un peu le point noir de la journée. Après, je ne vais pas me plaindre. Quand on voit ce qu'ont vécu d'autres personnes pendant la Covid, ça, c'est quand même pas, voilà, c'est pas dramatique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était assez sympa parce que ce jour-là, j'ai pu décorer mon fils.
Ah, super.
J'ai un de mes fils qui est militaire et donc qui a été décoré ce jour-là. Donc il est dans les commandos parachutistes. Donc voilà, décorer mon fils qui est dans les commandos parachutistes au milieu des forces spéciales de l'armée de terre française, c'était assez sympa, ça. C'était même très sympa. Et puis ouais, tous ceux qui ont pu venir pour m'accompagner dans ce dernier moment. Donc voilà, ça c'était très sympa. Après, les gens me disent souvent, ça t'a pas fait un choc de partir de... Non, parce qu'en fait, l'armée c'est assez simple, hein. On sait qu'à 59 ans, on doit partir forcément, on n'a pas le choix. 59 ans, on part. Donc j'avais eu 59 ans au mois de février, le patron de l'armée de terre m'a dit, OK, tu peux rester jusqu'à l'été. Donc je suis resté jusqu'à l'été, mais je savais qu'à l'été, je partirais. Et ça faisait 40 ans que je savais que je partirais cette année-là, en tout cas, pas plus
Si t'étais
tard.
là.
Donc pas tout à fait 40 ans parce que les âges limites ont changé entre-temps, mais globalement, c'est pas une surprise. Quand je suis rentré à l'armée, je savais que voilà. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Moi, ce que je garde en tête, c'est ce dernier poste de patron des forces spéciales de l'armée de terre, qui est un poste absolument extraordinaire, exceptionnel, où on gère à la fois la petite équipe qu'on va déployer dans tel ou tel pays pour mener une opération très particulière, à la demande de la direction du renseignement militaire ou je sais pas quoi, tout petit truc. Et là, on va, voilà, c'est vraiment du terre à terre très concret. Et puis, en même temps, on a, avec mes collaborateurs, dessiné ce qui, selon nous, devait être les forces spéciales en 2035. Donc, avec une vision prospective, une vision à long terme sur les équipements dont on aurait besoin. D'abord, le contexte dans lequel les opérations seraient sans doute menées, les équipements dont on a besoin, les compétences dont on aura besoin, les modes d'action, les voilà. Ça sera quoi? Il faudrait que ce soit quoi? Les forces spéciales dans 15 ans. Donc, c'est les deux bouts de la chaîne, un truc très terre à terre pour trois personnes qui vont. Et puis, ça doit être quoi les forces spéciales dans 15 ans? Donc, il y a ça. Et puis, l'avantage de pouvoir rencontrer des gens tout à fait exceptionnels, parce que les forces françaises, les forces spéciales de l'armée de terre française, c'est des gens exceptionnels. Je pense que les gens ne s'imaginent pas la qualité de ces gens-là. Dormez bonnes gens, les forces spéciales veillent, hein, c'est extraordinaire. C'est des gens remarquables, remarquables. Et donc voilà, terminer la tête de ces forces-là, c'était exceptionnel.
C'est un très bon mot de fin. J'aime beaucoup, voilà, cette histoire, pour le coup, ce partage que tu nous as procuré aux personnes qui nous écoutent. C'est vrai que c'est. Moi, je voyais les forces spéciales, je regardais ça de mon regard non militaire, mais qui est assez important, parce que c'est vrai que c'est fort. Pour avoir rencontré certains militaires, il y a une intelligence dans l'armée de terre française. Ils sont impressionnants pour le coup. Et que soit qu'ils soient sur le front ou en stratégie, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et heureux d'avoir cette armée qui nous protège, surtout en ce moment avec tous les conflits. Parce qu'on parle d'un conflit en ce moment en Europe de l'Est, mais il y a quand même d'autres conflits que gère l'armée militaire depuis de nombreuses années. Ça, c'est impressionnant. Ça reste des
Ouais,
sujets.
c'est vrai.
Il faut pas se louper. Il faut bien communiquer, entre autres. Il n'y a pas que ça, le message de cet épisode, mais de bien se connaître et d'amener les équipes là où on a envie de les amener. Comment on rentre en contact avec toi, Thierry?
D'abord, je suis sur LinkedIn, donc c'est assez simple. Je pense que l'idéal, c'est ça. Ouais. Les gens qui veulent me joindre, ouais, LinkedIn, je pense que LinkedIn, c'est l'idéal. Ouais.
Bah, c'est parfait,
Ouais.
je transmettrai bien sûr dans les notes de cet épisode, beaucoup basé sur voilà, la relation, la proximité avec Thierry. Donc, vous souhaitez rentrer en contact avec lui, il sera un plaisir de pouvoir vous répondre par rapport à ses activités dans le domaine civil. Mais c'est vrai qu'il nous a accompagnés pendant 40 ans, donc ça fait beaucoup, hein. Et j'aime beaucoup la note finale, voilà, d'avoir pour décorer ton fils pour le coup lors de ton départ. Ça devait être quelque
Ouais,
chose
c'est
de
vrai.
fort. Et bon, parler de transposer les choses, de transmettre, et ça devait être vraiment une belle cérémonie, malgré qu'il n'y avait pas les personnes à escompter, mais
Ouais,
ça reste
c'est vrai.
plus
Ouais.
dramatique, comme tu disais, tout simplement. Je tenais
Ouais,
vraiment à te
parce que
remercier.
c'est un élément dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est les conjoints. Ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que c'est sympa quand on a des activités extrêmement prenantes comme ça, à droite et à gauche, c'est super. Mais derrière, il y a quand même une famille et des conjoints pour qui c'est souvent compliqué, qu'on soit militaire ou pas d'ailleurs, mais c'est souvent compliqué.
Alors, faire attention, hein. Essayer d'être le plus souvent avec eux. Bah, c'est un bon moment, tout compte fait, c'est une belle fin en soi d'être avec, de préserver sa famille, de les protéger et passer de bons moments ensemble le plus possible. Bah, merci infiniment, mon cher Thierry.
Merci à toi.
De cette expérience, de ces expériences. Si vous avez apprécié cet épisode, vous avez qu'à le noter directement sur toutes les plateformes pour qu'il sublime et puis de le partager, parce que c'est vrai que c'est fort pour faire très simple. Donc, rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Ça ne saurait tarder. C'est déjà même enregistré, mais ça, vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Et je vous dis à très bientôt. Et continue cette belle carrière, Thierry, parce que tu as encore de belles années devant toi.